BW. Magazine Environnement.
Au menu de notre magazine, la réaction d'un acteur de la société civile africaine après la 26e conférence des Nations Unies sur le climat. Un accord au forceps a été trouvé à l'issue de la COP26 organisée à Glasgow en Écosse. Un bilan décevant, nous dira l'invité Sénat Alouka.
Nous ne sommes pas dans un cas de discussion pour trouver une forme à quelqu'un. On est face à un danger. Il faut des mesures rigoureuses et rapides.
Mesdames et messieurs, bonjour. Kosvi Tiassou au micro. La COP26 a adopté un accord en demi-teinte après deux semaines de négociations éprouvantes à Glasgow, en Écosse. Le texte adopté par les délégués représentants des pays à la COP26 ne garantit pas la limitation de la hausse des températures à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, comme annoncé, et ne contient pas d'offres chiffrées pour l'aide aux pays pauvres. En français facile, l'accord de Glasgow n'empêchera pas une hausse de plus de 2,5 degré Celsius des températures en 2100 si les pays ne corrigent pas le tir. C'est ce que regrette Sénat Alouka, le président de l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement, qui a participé à cette conférence. Son organisation est présente dans plusieurs pays africains.
À la COP, les résultats sont très mitigés. C'est vrai que le multilatéralisme a encore gagné. 200 pays pour se mettre d'accord sur 140 points, je peux vous garantir, ça ne doit pas être assez aisé. Donc, résultats mitigés, disais-je, parce que qu'est-ce que nous cherchons à la COP? Nous cherchions nos 100 milliards promis à Copenhague. Nous cherchions une nouvelle facilité pour gérer les pertes et dommages, parce que beaucoup de pays, notamment sahéliens, maghrébins, mais aussi à la côte, subissent déjà le changement climatique et subissent non seulement les effets, mais des catastrophes. Donc, on voulait une facilité nouvelle, différente de tout ce qui existait, mais aussi nous sommes allés à la COP pour chercher nos 1,5 degrés Celsius.
Pourtant, certains délégués africains, notamment le porte-parole du groupe africain aux négociations, a déclaré que c'est globalement satisfaisant pour le continent africain.
Oui, d'un point de vue diplomate, on peut pas s'en douter. Monsieur Céline Nafo, que j'ai aussi écouté ce matin, et beaucoup d'autres collègues, y compris même le point focal climat de deux pays que j'ai bien raconté à la fin, eh bien, se sont dit, ben, écoutez, ça va, c'est les négociations, c'est le dialogue, c'est les compromis. Mais pour nous, citoyens, ce n'est pas acceptable. Comme l'a dit la responsable, en tout cas la chef de délégation des îles Marshall, on ne peut pas accepter cette situation-là. Nous ne sommes pas dans un cas de discussion pour trouver une forme à quelqu'un. On est face à un danger. Il faut des mesures rigoureuses et rapides. Bon, alors, donc, la COP n'est pas passée par là-bas. Au contraire, c'est aujourd'hui qu'on commence par faire entrer le nucléaire dans les négociations. On se bat sur le mot d'éliminer les énergies fossiles, en tout cas le charbon, ou réduire, ou progressivement le mettre de côté. On fait une guerre sur des mots, alors que les populations ont soif de solutions. Donc, in fine, est-ce qu'on a reçu nos 100 milliards? Non, on n'a pas eu l'argent. Il y a eu quelques progrès sur les renforcements de capacité, progrès sur l'agriculture, progrès sur les technologies, progrès sur la transparence. Mais la clé des négociations, c'est il faut dérouter la trajectoire. La science, le dernier rapport du GIEC, a dit nous sommes sur une trajectoire vers 2, 3, 4 degrés Celsius d'augmentation par rapport au niveau pré-industriel. La COP, malheureusement, n'a pas réglé ça. C'est vrai qu'on a parlé de 1,2 degrés Celsius, 1,5 degrés Celsius dans la COP. Mais le fait de pousser les États responsables à réduire drastiquement leur économie, à prendre des engagements nouveaux, eh bien non, on n'est pas là, nous sommes toujours sur la mauvaise trajectoire.
Toujours sur la mauvaise trajectoire selon vous, Sénat Alouka, mais les pays africains ont quand même eu des promesses, il y a des engagements en faveur de l'Afrique en matière d'adaptation et aussi de protection des forêts.
Oui, effectivement, il y a eu une nouvelle coalition, d'ailleurs trois d'ailleurs, il y a eu une nouvelle coalition en faveur de la déforestation, que les États, près de 100 pays, sont mis d'accord à arrêter d'ici 2030. Bon, mon cher, ce n'est pas la première fois. Il y a eu le défi de Bonn, nous sommes dans la décennie de la restauration des écosystèmes, il y a la convention des Nations Unies sur les forêts. Ça, c'est du déjà vu. Donc, passé, il n'y a rien à voir. Deuxièmement, sur l'adaptation, c'est là où peut-être les diplomates peuvent dire il y a eu avancée, oui. Le langage dit nous allons doubler le financement en faveur de l'adaptation. Et le langage dit oui, nous nous mettons d'accord pour que tout financement en faveur de l'Afrique, en tout cas des pays développés, en développement, ce financement, la moitié serve à l'adaptation, la moitié serve à l'atténuation. C'est effectivement un progrès, mais au regard du comportement de nos collègues entre 2009 et 2021, selon le dernier rapport publié par l'OCDE, sur les 100 milliards, on en est à 70 milliards qui ont été versés. Mais si vous calculez bien ces 70 milliards, c'est quoi? Parfois, c'est des prêts de nos pays. Parfois, c'est même des financements octroyés directement aux entreprises, même basées de l'autre côté. Donc, oui, l'Afrique gagne un peu avec cette promesse de doubler les financements. Oui, l'Afrique gagne parce qu'on a justement accepté des négociations qui doivent s'ouvrir sur l'article 6, la question des marchés. Oui, l'Afrique gagne parce qu'il y a eu effectivement des promesses, en tout cas une alliance nouvelle en faveur de la déforestation. Bon, ça c'est OK, mais c'est que nous sommes face au danger tout de suite. C'est pas une question de donner l'argent. Il faut que ces nations paient la dette écologique, ils paient la dette climatique.
Vous voulez parler de la responsabilité historique qui divise toujours lors de ces négociations?
Oui, pourquoi? Parce que aujourd'hui, ces États développés sont en train de transférer la responsabilité de réduction des émissions aux pays en développement, les pays qui montent en force, comme les BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine. Donc on veut les transformer, et l'Afrique du Sud aussi, c'est BRICS. Donc on veut les transférer le devoir de responsabilité vers ces pays-là. Et donc en parlant justement du charbon, parce qu'aujourd'hui ils savent qu'eux, ils sont progressivement en train de passer l'ère du charbon. Mais quand il faut passer une transition, il ne faut pas faire une transition autour seulement du charbon. Il faut parler du gaz, il faut parler du pétrole. Et ça, nos amis ne veulent pas ça.
Et à la COP26, on a l'impression que les pays les plus vulnérables sont ceux qui ont dû faire le compromis, le plus de compromis.
Oui, effectivement. Vraiment, si vous étiez aux îles Marshall, si vous étiez aux îles Salomon, si vous venez de Hawaï, si vous venez de, je ne sais où, de Guadeloupe, de Martinique, de Seychelles, des îles Maurice, du Sahel, quand vous venez de Mozambique, vous comprenez que la question qui s'est négociée, c'est une question de vie ou de mort demain matin. Il y a des pays qui ont à la salle demandé ouvertement qu'une négociation nouvelle se fasse autour des réfugiés climatiques que diplomatiquement, officiellement, doivent demander des asiles.
À Glasgow, les pays pauvres et vulnérables au réchauffement de la planète n'ont pas non plus été entendus sur la compensation des pertes et dommages, une compensation des effets déjà dévastateurs, des inondations, des sécheresses ou encore des tempêtes. Peut-être que la solution sera trouvée en Égypte l'année prochaine, lors de la COP27, et la ministre égyptienne de l'Environnement, Yasmine Fouad, y croit.
La COP27 sera vraiment une COP africaine où nous espérons pouvoir faire une percée dans des domaines prioritaires, pas seulement pour le continent africain, mais pour le monde entier, comme par exemple le financement climatique, l'adaptation, les pertes et dommages nécessaires pour accompagner les progrès, les efforts d'atténuation et les autres aspirations pour atteindre la neutralité carbone.
Yasmine Fouad, ministre égyptienne de l'Environnement. Son pays accueille la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27.
DW.
En marge de la COP26 à Glasgow, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont annoncé un plan visant à financer la transition de l'Afrique du Sud vers les énergies renouvelables. 8,5 milliards de dollars vont ainsi lui être accordés sous forme de prêts à taux bas et de subventions sur une période de 3 à 5 ans. Il s'agit d'aider au développement des énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes, et d'aider à la reconversion de la région de Mpumalanga, l'une des plus polluées au monde par la combustion de charbon. Valérie Hirsch, notre correspondante sur place, s'était rendue dans deux townships de cette région. Son reportage.
Le township de Guacuca abrite 12 des 15 centrales au charbon qui fournissent 90% de l'électricité sud-africaine. Bali Matebula habite dans une petite chambre avec ses filles âgées de 3 et 7 ans. Tous deux souffrent d'asthme. Pour mieux respirer, Princesse, l'aînée, doit souvent porter un masque relié à un compresseur donné par une ONG.
Depuis qu'elle a 3 ans, elle a de l'asthme. Si elle joue une demi-heure, elle se fatigue et doit s'asseoir pour se reposer.
Le gouvernement sud-africain reconnaît que la pollution dépasse les normes, pourtant déjà très faibles. Il n'a fait aucune étude sur l'impact sur la santé dans la région, mais selon une ONG, le Centre pour les droits environnementaux, la pollution provoquerait chaque année plus de 9000 cas de bronchite chez les enfants et entraînerait la mort prématurée de 2200 Sud-Africains. Promise Mabilo est coordinatrice de Vukani, une ONG locale qui se bat contre la pollution de l'air. Quand elle parle des enfants malades, elle se met à pleurer.
Si une personne a une crise d'asthme et va à la clinique, elle doit faire la queue comme tout le monde. On ne donne pas priorité aux malades, même s'ils souffrent. Alors c'est pénible. Et parfois, elle ne reçoit même pas l'aide dont elle a besoin. J'ai vu beaucoup d'enfants qui souffrent. Et chaque fois que je parle de ce problème, cela me bouleverse.
Le fils de Promise souffre aussi d'asthme. Elle essaye de mobiliser les gens de sa communauté, mais ce n'est pas facile.
Je vois que ces gens souffrent, ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas acheter ces compresseurs, mais ils ne veulent pas protester. Moi-même, parfois, je me sens menacée. Mais nous ne voulons pas des conflits, nous voulons des solutions.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé qu'il allait fermer progressivement les centrales thermiques. Promise Mabilo attend avec impatience le jugement dans un procès intenté en mai dernier par Vukani et l'ONG Groundwork contre le gouvernement pour le forcer à prendre des mesures pour combattre la pollution de l'air. Valérie Hirsch à Johannesburg pour la Deutsche Welle.
C'est sur ce reportage de Valérie Hirsch que prend fin le nouveau numéro de notre magazine. Était également au menu la réaction de la société civile africaine après la COP26 à Glasgow en Écosse. Merci de nous avoir suivis. Kosivitiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.
J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés. Leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait?